défensif David Bailey de Texas Tech. Et on complète le podium au troisième rang avec le porteur de ballon de Notre-Dame, Jeremiah Love, choisi par les Cardinals de l'Arizona. La deuxième ronde du repêchage se poursuivra ce soir à Pittsburgh. Et ce soir, 19h, place au match numéro 3 entre le Canadien et le Lightning. On se déplace à Montréal au Centre Bell. La série est égale 1-1, ça va être un excellent match. Si jamais vous êtes trinqué, il reste encore des billets pour la modique somme de 2 800$.
C'est le plan du Big Reset?
Ben, je sais pas. Pourquoi tu dis ça?
Je sais pas.
Pour plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Présenté par Giroir Équipement. Une équipe passionnée en machines de levage, de manutention et d'élévation de personnes. Concessionnaire spécialisé de Manitou, Giroir Équipement vous offre un service inégalé dans votre région. Giroir.qc.ca.
Choix.
Hell yeah!
Choix. 98.
Yeah! 98.
1. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Oh my gosh. We're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh.
Radio X.
Searching for the Ark of the Covenant is what they call very high risk, very, very high reward.
It would be the most major find in archaeology.
This is that big what if question.
The Ark of the Covenant, infinite power, settled on a temporal vessel, the very throne of God. But in a moment, it was lost.
All of a sudden, gone.
What happened to one of the most religiously significant objects?
To find the Ark, you must immerse yourself in the legends. But will the Ark be found?
Mesdames et messieurs, bienvenue dans les Radio X-Files de ce vendredi soir. Je vous souhaite un bon début de week-end. Christian Page, bon début de week-end à toi aussi.
Oui, je suis là.
Oui.
Écoute, ouais,
ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est lié au premier sujet de ce soir, qui est l'Arche d'Alliance, et dont oui. Je n'ai aucune idée.
De ce que c'est.
Oui, exact.
Donc, si je comprends bien, tes études bibliques sont loin.
Oui, très.
En fait, l'Arche d'Alliance, je vois aussi que tu n'es probablement pas un fan des films Indiana Jones.
J'en ai regardé quelques-uns, mais ceux des années 80, j'étais peut-être un peu jeune.
Okay, que c'est parce que le premier... De la saga, et pour beaucoup, c'est considéré comme le meilleur de la... Parce que je pense que, de mémoire, je pense que c'est 5 films qui ont été faits. Et celui qui trône en première place, c'est le premier, Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue.
Oui.
Et dans ce film-là, évidemment, l'objet de culte que Indiana Jones essaie de récupérer, c'est l'Arche d'Alliance. Donc, c'est l'objet dont il est question un peu dans cette bande-annonce qu'on vient d'entendre. D'ailleurs, la bande-annonce, soulignons que c'est un nouveau documentaire sorti le 7 avril dernier et qui s'intitule « Legend of the Lost Ark ». Le document a été présenté dans des cinémas qui avaient été sélectionnés et j'imagine que d'ici peu, on pourra le retrouver sur des plateformes comme Netflix ou Prime ou autre. Et c'est un documentaire qui a été fait cette fois par un vrai archéologue. J'ai pas vu le documentaire, je ne sais pas ce que ça donne, mais j'ai quand même vérifié. L'auteur derrière le documentaire est un type qui s'appelle Chris McKinney, qui est un véritable archéologue et un spécialiste de l'ancienne histoire de la Judée. Là. Donc, en plein dans le cœur de l'objet de notre discussion, qui nous place avec l'Arche d'Alliance.
Oui.
Donc, cette Arche d'Alliance dont Indiana Jones essayait de mettre la main dessus dans le premier film. C'est un objet qu'on retrouve, en fait, dans l'Ancien Testament, dans la partie de l'Exode. Donc, c'est Moïse. Tu connais Moïse?
Oui, ça va.
Donc, Moïse, sur le mont Horeb, va recevoir de Dieu les commandements et que Dieu va graver sur des tablettes en pierre. Et ensuite, il va demander à Moïse de construire une boîte, un coffre, qui va permettre de transporter les tables de la loi. Et ce coffre, Dieu est assez précis, il donne des mesures qui sont très précises. Hein. L'arche devra mesurer 2 coudées et demie de longueur sur 1 coudée et demie de largeur, sur 1 coudée et demie de hauteur. Donc, c'est un coffre qui n'est pas très gros, hein. Je te dirais que c'est un coffre qui fait peut-être... un peu moins de 3 pieds, là, un peu moins d'un, à peu près 1 mètre. Hein, on peut s'imaginer, là, parce qu'une coudée, c'est à peu près 39 cm. C'est donc, on a quand il dit 2 coudées et demie, bon, on s'imagine oui. que 2 coudées et demie, c'est à peu près 70-80 cm. C'est bon, donc, on a une idée à peu près. C'est pas un très gros coffre. Dieu dit, tu le couvriras d'or en dedans et en dehors. Et ensuite, il dit, pour l'arche, tu feras un coffre, un dessus. Qui sera fait en or avec 2 chérubins, donc des anges qui auront les ailes retournées. Bon, il donne des indications très précises sur la structure de l'arche. Et ensuite, il dit à Moïse que les gens qui transporteront l'arche devront porter des vêtements spéciaux. Et Moïse devra fondre pour l'arche 4 anneaux d'or qu'il va placer à chacun des coins inférieurs de l'arche, dans lesquels ils vont placer des bâtons en bois pour transporter l'arche. Donc, tu vois un peu le truc, on peut l'imaginer, on a une boîte en or avec des bâtons qui passent à la base et que les gens transportent, que les gens utilisent pour transporter l'arche. Pour ceux qui ont vu le film Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue, la reconstitution que Spielberg fait, parce que bon, le film a été réalisé par Steven Spielberg en collaboration avec George Lucas, ou George Lucas avec Steven Spielberg, peu importe. Spielberg réalise le film, Lucas oui. le produit. Donc, on voit un peu le duo. Et la façon dont l'arche est présentée, la reconstitution de l'arche, elle est parfaite. Pour ceux qui ont vu le film, si l'arche a existé, elle devait ressembler à celle du film. Okay. Donc, on a été très minutieux sur la façon dont on a reconstruit l'arche pour lui donner le plus de crédibilité par rapport au texte. Donc, Dieu donne à Moïse ses indications pour construire l'arche, pour transporter l'arche. Et elle devient fabuleuse. Hein. D'ailleurs, on comprend bien que dans le film, le premier film d'Indiana Jones, hein, lorsque... Indiana Jones décrit l'arche, il dit c'est l'objet le plus fabuleux de l'histoire, il est hérissé d'étincelles, c'est une façon de communiquer avec Dieu, parce que l'arche, on nous dit qu'une fois l'arche terminée, la voix de Dieu entre dans l'arche, elle permet de communiquer directement avec Dieu, et Moïse va pouvoir parler avec Dieu en parlant avec l'arche, hein. c'est vraiment un téléphone vers l'éternel. Okay. Et l'arche, elle a également des pouvoirs fabuleux. Donc, Moïse va l'utiliser pour transporter l'arche, mais lorsqu'il va se retrouver dans le désert avec les quelques 200 000 Hébreux qu'il a libérés des Égyptiens, lorsqu'il se promène, lorsqu'il avance dans le désert, hein, ils sont guidés par une nuée céleste hein, qui est animée par l'arche. Et l'arche, elle est au centre de tout. C'est le pouvoir de Dieu au milieu des hommes. Et après la mort de Moïse, son héritier, Josué, va utiliser l'arche notamment pour faire tomber les murs de Jéricho. Donc, les Hébreux marchent autour de Jéricho, on sonne des trompettes, on transporte l'arche, éventuellement les murs de Jéricho vont s'écrouler. Mmh. Elle a aussi d'autres pouvoirs mystérieux. À un moment donné, l'arche va tomber entre les mains des Philistins et les Philistins vont souffrir d'une éruption d'hémorroïdes.
Mon Dieu.
Tant et si bien qu'ils vont remettre l'arche aux Hébreux. Regardez-la.
C'est particulier.
Oui, c'est assez bon. Mais l'arche, c'est un objet qui est fabuleux. Et à un moment donné, dans le premier film d'Indiana Jones, Jones explique aux gens, parce que c'est comme des agents de la CIA qui le mettent en fait sur la piste en disant « Les nazis veulent s'en emparer. Est-ce qu'on doit craindre que les nazis s'en emparent? » Et Indiana Jones leur dit « Bah, un groupe de gens précédé de l'arche serait invincible. » Alors, tu peux pas combattre le pouvoir okay. de Dieu. T'es invincible, t'as l'arche. Et donc, évidemment, bon, dans le film, elle est vraiment fabuleuse. Hein, quand on l'ouvre, les anges qui sortent de l'arche, c'est très spectaculaire. Mais on s'appuie assez fortement sur le récit de l'Exode et ensuite sur les récits qui vont suivre, notamment le Livre des Rois qui évoque également l'Arche. Pourquoi je te parle de cela? Parce que, bon, il y a un archéologue. Moi, quand j'ai fait, il y a quelques années, ma série à la recherche des reliques saintes, on avait consacré un épisode à l'Arche d'Alliance. C'est l'objet le plus fabuleux, donc je ne peux pas insister davantage, là. C'est l'objet le plus fabuleux de l'histoire. Et comme des centaines d'autres avant moi, j'ai essayé de retrouver, de suivre la piste de l'Arche. Et les plusieurs pistes nous amènent vers différentes destinations. Les trois destinations les plus souvent évoquées lorsque l'on parle de l'Arche d'Alliance, parce qu'elle disparaît. Cette Arche, quand on regarde les textes religieux, je l'ai d'ailleurs devant moi, la dernière fois où l'Arche est réellement mentionnée, c'est dans le Livre des Rois, donc après l'épopée de Josué. Et on nous dit au chapitre 8, et on dit... Les sacrificateurs portèrent l'Arche d'Alliance à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes du chérubin. Et ce temple, ce sanctuaire, c'est le temple de Salomon. Donc le temple de Salomon, pour situer encore une fois dans l'histoire, il a été détruit lors de l'arrivée des Babyloniens. On est à ce moment-là, là, on est aux alentours de 586-587 avant Jésus-Christ. Ce sont les armées de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Donc, ils vont envahir Jérusalem, ils vont détruire le temple de Salomon. Le temple sera reconstruit, détruit à nouveau, et le roi Hérode va faire construire son propre temple, ou va reconstruire le temple, le deuxième temple, sur l'endroit où se trouvait le temple de Salomon. Donc, grosso modo, c'est à peu près l'histoire, et on sait que l'Arche a été, selon le texte, elle est déposée dans le temple de Salomon. Pour le situer aujourd'hui, quand tu regardes des photos de Jérusalem, tu vois, la chose qui domine Jérusalem, c'est ce qu'on appelle le mont du temple, avec cette espèce de mosquée. C'est pas une espèce, c'est une mosquée, avec ce grand dôme doré qui domine la ville. Donc, cet endroit-là s'appelle le dôme du rocher. Il est construit sur le mont du temple et c'est une mosquée maintenant. Mais c'est l'endroit où se trouvait jadis le temple de Salomon. Donc, aujourd'hui, le dôme du rocher est construit sur l'ancien site du temple de Salomon. Et dans l'histoire, on nous dit que la dernière fois où on a déposé l'arche, ben, c'est dans le cœur même du temple de Salomon. Et après ça, on n'en parle plus. Quand les armées de Nabuchodonosor vont envahir Jérusalem, la Bible nous dit, ils se sont emparés de la vaisselle, des ustensiles, mais à aucun moment on ne mentionne qu'ils se sont emparés de l'Arche. Et l'Arche est un objet si important dans l'Exode que si l'Arche était tombée entre les mains des Babyloniens, on peut supposer que l'auteur des textes l'aurait mentionnée. S'il ne la mentionne pas, bien évidemment, là, c'est la porte ouverte aux spéculations. S'il ne la mentionne pas, c'est parce qu'on l'avait déplacée. Mais où l'a-t-on déplacée? Alors là, c'est les spéculations. L'hypothèse la plus souvent évoquée, c'est qu'on l'a amené sous le temple. Sous le temple, il y aurait eu des tunnels, des cavernes, et c'est là qu'on aurait caché l'arche. La deuxième hypothèse souvent évoquée, c'est qu'elle a été transportée, parce que là, on fait le livre des Maccabées, donc un autre texte religieux qui dit que l'arche aurait peut-être été transportée ensevelie dans la tombe de Moïse. On suppose qu'il y ait la tombe de Moïse, mais on suppose qu'elle est proche du mont Horeb dans la chaîne du Sinaï. Donc, ça pourrait être le deuxième endroit. Et le troisième endroit, qui est une tradition plus tardive, qui voudrait que l'arche soit placée dans un temple qui se trouve à Aksum, en Éthiopie. Parce qu'on est, encore là, c'est pas des textes religieux, mais c'est une tradition religieuse qui voudrait que le roi Salomon aurait eu une aventure avec la reine de Saba, et la reine de Saba aurait eu un fils illégitime. On sait pas où était le royaume de Saba, mais beaucoup le situent en Éthiopie, quoique la plupart des historiens et des archéologues croient que c'était davantage le Soudan. Mais peu importe.
Okay.
La tradition voudrait que Salomon aurait eu une aventure avec la reine de Saba. Ils auraient eu ensemble un fils, le Mélénique. Et Mélénique, éventuellement, serait allé à Jérusalem, aurait rencontré, après la mort de la reine de Saba, le fils aurait hérité du pouvoir, serait allé à Jérusalem, aurait rencontré son père, le roi Salomon, et éventuellement, au moment de revenir en Éthiopie, il aurait transporté avec lui, de manière un peu en catimini, il aurait transporté l'arche, et l'arche serait aujourd'hui gardée dans une petite chapelle à Aksum, en Éthiopie. Donc, j'y suis allé. Tu peux pas rentrer dans le temple. Hein? Il y a une espèce de temple, il y a un gardien, puis personne n'est autorisé à entrer dans le temple, et on dit que le gardien, c'est le gardien de l'arche, puis que l'arche est là. Bon, ça, les trois endroits. Disons tout de suite que pour le temple d'Aksum, même si aujourd'hui on n'y a plus accès, ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 30 ou dans les années 40, certains individus ont été autorisés à entrer dans le temple. Et certains d'entre eux, je pense notamment à un professeur de l'Université d'Oxford, je crois, lui avait pénétré dans le temple et avait vu le coffre en question. Et il est clair que ce qu'il a vu n'était pas l'Arche d'Alliance. C'est ce qu'on appelle un Talbot. Il dit, c'est une réplique de l'Arche, mais c'est pas la vraie Arche.
C'est pas, Donc, pas l'original. C'est pas la vraie.
Donc, c'est ça. Donc, il y a tout un culte qui s'est développé autour de cette boîte qui est conservée dans la chapelle de Aksum, mais d'après ce témoignage, un témoignage visuel, cette boîte-là ne serait pas l'Arche d'Alliance. Donc, on ne sait pas vraiment où elle est. Et on peut imaginer, on n'est pas certain qu'elle a jamais existé. Hein? Ça se peut que ce soit simplement un mythe. Et ensuite, si elle a existé, y a bien des chances qu'elle n'existe plus aujourd'hui, qu'elle ait été détruite ou quoi que ce soit. Il y a mille et une hypothèses qui est possible, mais jouons le jeu. Si l'arche existe encore aujourd'hui,
oui.
Et si on élimine l'église de Sainte-Marie de Sion, là, à Aksum, mm-hmm. Il nous reste soit la tombe de Moïse ou des souterrains sous le dôme du rocher. Et c'est un peu mon actualité d'aujourd'hui à ce sujet-là. Il y a, on a entendu là, la bande-annonce de ce documentaire « Legend of the Lost Ark » qui est sorti le 7 avril dernier, dirigé par Chris McKinney, en tout cas l'un des artisans du documentaire, Chris McKinney, qui est un archéologue. Et là, il vient de déposer une demande pour pouvoir faire des fouilles sous le dôme du rocher. C'est pas aussi simple qu'on pense, parce que c'est sûr que les gens qui nous écoutent se disent « Ben là, c'est aller sous le dôme du rocher, ils ont rien qu'à creuser,
ouais, c'est
à trouver.
Ça. »
Moi, je me rappelle, écoute, tu sais, un moment de solitude. Essaie de voir la scène. Je me retrouve, on est, de mémoire, je crois que c'est en 2012, je suis sur un chantier de fouilles à Jérusalem avec des archéologues. Et à un moment donné, durant l'heure du lunch, on travaille, on fait des fouilles, tout ça. Et à un moment donné, durant l'heure du lunch, moi, je tourne un documentaire, là. Je suis pas un archéologue, là. Mais on m'a invité à participer aux fouilles, puis voir un peu comment ça se passe, puis tout ça. T'sais. Donc, je suis là avec l'équipe, et puis là, à un moment donné, durant l'heure du lunch, on est tout le groupe à discuter, et là, je demande à un des archéologues qui est là, je dis, oui, mais... si l'arche, parce que le sujet est l'arche, si c'est l'arche, elle est sous le dôme du rocher, je dis, on n'a rien qu'à prendre une pelle pour aller creuser, puis on va le savoir.
Ben oui.
Et là, l'archéologue me regarde, et tu sais, le moment, là, tu vois dans ses yeux qui passe une espèce d'ombrage. Et je peux penser ce qu'il. Tu sais, je devine ce qu'il pense. Il doit être en train de se dire, ce type-là, m'as-tu vraiment posé cette question-là, ou c'est le parfait imbécile, tu sais, mm-hmm. Ou un ignorant ou un imbécile. C'est un des deux. Bon, j'ose croire qu'il a compris que j'étais un ignorant plus qu'un imbécile, parce que il me regarde et il me dit, si tu fais ça, tu déclenches la Troisième Guerre mondiale.
Mon Dieu.
Et là, évidemment, quand on ne connaît pas le contexte géopolitique de la chose, ça peut nous paraître très étrange. Mais il faut savoir que la ville de Jérusalem est divisée en quartiers, et ces quartiers-là reposent sur certaines obédiences. Donc, on a le quartier chrétien, on a le quartier juif, on a le quartier musulman. Donc, on a ces quartiers, et il faut gérer un peu l'ensemble de ces croyances ou de ces religions pour pouvoir... disons, se promener, aller d'un quartier à l'autre, faire des fouilles ou quoi que ce soit. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord. Moi, quand j'avais fait ce documentaire à la recherche des reliques saintes, j'avais dans mes poches une lettre du Vatican qui m'autorisait à ouvrir toutes les portes. Mais cette lettre-là, elle fonctionne avec le milieu chrétien. Là. Et
oui,
malheureusement, le monde du temple, on est dans le milieu, on est chez les musulmans.
Donc,
et c'est un endroit très, très saint. Le dôme du rocher, là, dans la religion musulmane, c'est l'endroit où Mahomet est remonté au ciel. C'est l'endroit de son départ. Et c'est pour ça qu'on a construit cette mosquée sur le dôme du rocher. C'est l'endroit qui va permettre l'ascension de Mahomet vers le ciel. Donc, tu comprends que c'est un des endroits les plus saints de l'islam.
Ouais, j'imagine.
Tu peux pas arriver là avec une pioche puis commencer à creuser en disant « Ah, on a peut-être enterré l'Arche d'Alliance. » Ça marchera pas. Et c'est là qu'on m'a expliqué ce contexte religieux, géopolitique, qui fait que tu peux pas faire ça. Donc, il n'y a aucun moyen. Il y a apparemment, parce que durant les différentes guerres et occupations, notamment l'occupation coloniale au 19e siècle, il y a des gens qui ont pénétré sous le dôme du rocher. Il y avait un système de tunnels qui permettait d'acheminer de l'eau à différents endroits de la ville, et certains individus ont pénétré dans ces tunnels-là. Je pense notamment à un type qui s'appelle Charles Warren, qui, curieusement, est devenu éventuellement le chef de Scotland Yard au 19e siècle durant les crimes de Jack l'Éventreur. Donc, ce fameux Charles Warren avait fait partie de différentes missions, et à un moment donné, en Terre Sainte, il avait pénétré dans ces tunnels. Donc, on a un compte rendu à quoi pouvaient ressembler ces tunnels. Bien, ils sont bloqués, certains sont effondrés, donc il faudrait un travail de déblaiement pour pouvoir poursuivre les recherches. Mais ces tunnels existent. On a des témoignages de gens qui sont descendus, qui les ont vus. Mais quelle est l'ampleur de ces tunnels? Jusqu'où vont-ils? Et est-ce que si ces tunnels existent, et effectivement, ils vont sous le dôme du rocher, s'ils sont toujours en état, est-ce que quelque part, il y aurait une cache secrète dans laquelle on aurait placé l'Arche d'Alliance? Mais comme je l'ai mentionné, c'est impossible d'arriver là avec un pic, une pioche, puis commencer à faire
des travaux. Ouais, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que... Il n'y a pas beaucoup de moyens, là. Donc, jusqu'à maintenant, l'archéologie était un peu interdite sur le dôme du rocher. On pouvait faire des recherches autour, mais directement en dessous, c'est pas possible. Et là, voilà donc que le réalisateur, ou en tout cas l'un des artisans de ce documentaire, Legend of the Lost Ark, cet archéologue, Chris McKinney, a déposé une demande pour pouvoir utiliser une nouvelle technique qui a été éprouvée et qui a démontré son efficacité. Cette technique-là, c'est la technique des muons. Si les gens entendent pour la première fois ce mot de muon, il faut savoir que depuis quelques années, il y a un projet très ambitieux en Égypte qui a été mené, qui s'appelle le projet Scan Pyramide. Et le projet de Scan Pyramide, on est un peu dans le même contexte, c'est-à-dire que les archéologues, même si les archéologues ont accès au chantier des pyramides, on ne peut pas arriver avec un pic et une pelle puis commencer à creuser des trous dans la pyramide. Ça ne fonctionnera pas, ça. Le gouvernement, le département des
antiquités
égyptiennes permet pas faire ça. T'sais. Donc, on a donc proposé cette technique aux muons. Donc, ce sont des plaques. Je vais essayer de résumer ça, là. On met un peu comme des plaques photographiques. Ces plaques-là sont sensibles aux muons. Les muons, ce sont des particules qui sont véhiculées par le rayonnement cosmique. Donc, ils traversent l'atmosphère. Ils traversent tout objet physique, matériel. Ils passent à travers les objets. Ils passent à travers la pierre, passe à travers ton corps au moment où on se parle. Et les muons ont ce curieux comportement de ralentir. Ils passent à travers tout, mais ils vont ralentir en fonction des matériaux qu'ils traversent. Donc, à partir de ce principe-là, si tu me suis bien, là,
oui.
Si tu places des plaques de photos qui captent les muons, bien, il y a certains endroits de ta plaque photo qui vont être moins exposés et d'autres plus exposés en fonction du fait que les muons ont été ralentis dans certains endroits ou ont accéléré dans d'autres endroits. Donc, et grâce à ça, on a pu découvrir qu'il y avait au-dessus de la galerie, c'est probablement la découverte la plus importante dans ce projet de scan pyramide. Là, je te parle, ça, même si on appelle ça scan pyramide, on a scanné le tombeau de Toutankhamon, le tombeau de d'autres pharaons, les pyramides. C'est plein de grands monuments égyptiens qu'on a étudiés grâce à cette technique. Mais dans le cas de la Grande Pyramide, c'est parce que c'est souvent un sujet qui fascine les gens, la Grande Pyramide, on a découvert au-dessus de la galerie principale. C'est énorme, là. La galerie principale, c'est la galerie qui mène directement à la chambre du roi. C'est haut comme une cathédrale, là. Quand tu es là-dedans, là, c'est gigantesque. On a découvert qu'au-dessus de cette galerie, il y a un grand espace vide. Et pourquoi on le sait? Parce que les muons, lorsqu'ils ont traversé cet espace-là, lorsqu'ils se sont retrouvés dans cet espace vide, ils ont accéléré. Tu comprends? Ils ont traversé la pierre,
oui, oui.
Ils ont ralenti.
Oui, oui.
Ils arrivent dans l'espace vide, ils accélèrent. Et là, ensuite, hop, ils vont retraverser la pierre pour aller rejoindre la plaque photographique. Et là, ils vont ralentir à nouveau. Donc, en calculant, cette personne dit, ben là, on a toute une grosse zone où les muons ont accéléré dans cet espace-là. Donc, forcément, il est vide. Ce qui fait que c'est pourquoi les muons ont accéléré. Donc, on sait qu'il y a cette immense voûte au-dessus de la galerie principale. Là, au moment où on se parle, on n'a pas pénétré dans cette voûte. Mais elle est gigantesque. Ben, gigantesque. Elle est énorme, là. Elle fait plusieurs dizaines de mètres. Là, je pense que c'est 30 mètres de long sur 10 mètres de haut. C'est un gros espace. Là, pour l'instant, les archéologues sont limités parce qu'il faudrait percer un trou pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de cet espace. Peut-être que c'est simplement une chambre de décharge. Peut-être qu'il y a des objets. Certains ont même avancé que c'était peut-être le véritable tombeau du roi Khufu, parce qu'on sait que dans la chambre du roi, il y a une espèce de boîte en pierre, mais on n'a jamais trouvé d'ossements, pas de restes humains, pas de momies. Donc, on peut supposer que c'est simplement parce qu'elle a été enlevée durant des périodes de pillage, ou bien la momie a été placée ailleurs. Donc, certains ont dit, c'est peut-être dans cet espace-là. Mais quoi qu'il en soit, cette technique des muons a montré qu'elle était efficace, qu'elle fonctionnait. Et donc là, grâce à cette technique, McKinney, une technique qui n'est pas invasive, qui n'est pas destructive, McKinney espère que les responsables du Dôme du Rocher, les responsables politiques et religieux, vont autoriser l'utilisation de cette technique pour pouvoir littéralement scanner le Dôme du Rocher, le mont du Temple, et voir dans quelle mesure il y a des espaces en dessous et dans quelle mesure il pourrait y avoir des chambres secrètes. Et s'il y a des chambres secrètes, bien évidemment, c'est la porte ouverte à peut-être que l'Arche d'Alliance s'y trouve. Mais d'abord et avant tout, il faut cartographier le sous-sol du mont du Temple. Et cette technique-là permettrait de le faire. C'est une grande première. Si cette autorisation est donnée, pour la première fois, on va avoir une vue en trois dimensions de ce qu'il y a en dessous du Dôme du Rocher.
C'est phénoménal, formidable même.
Tout à fait. On n'aurait pas encore l'arche. Hein? D'ailleurs, non. McKinney l'a bien mentionné dans une entrevue qu'il a donnée. Il dit, ça ne prouvera pas que l'arche est là. Hein? Il faudrait descendre dans le tunnel et voir de visu si l'arche est là ou entrer un système qui permettrait de voir, mais à tout le moins, on va régler un problème. Est-ce que oui ou non, on sait qu'il y a des tunnels autour du mont du Temple, on sait que certains vont vers le mont du Temple, mais est-ce que ces tunnels-là se poursuivent en dessous et est-ce que les chambres sont toujours accessibles? Donc, la technique des muons permettrait de découvrir ça. Donc, on se croise les doigts et peut-être que d'ici un an ou deux, on va avoir une cartographie de ce qu'il y a réellement en dessous du mont du Temple. Voilà.
Oui, c'est vraiment intéressant et ce serait impressionnant de voir tout ce qui pourrait se trouver là.
Oui, parce que ça va maintenir l'hypothèse viable. Oui, peut-être que l'arche s'y trouve, ou ça va fermer la porte à ça.
Ouais,
non, il n'y a plus rien. les tunnels sont effondrés, il n'y a plus rien là, donc on ne trouvera pas l'arche. T'sais. Donc, cette hypothèse, ça permettrait à tout le moins de maintenir l'hypothèse en vie, la mettre en vie ou l'éliminer en fonction de la cartographie qui pourrait être obtenue.
On va faire une courte pause, Christian Page. Et au retour, est-ce que tu veux continuer dans les disparitions mystérieuses?
Ben oui, on va y aller avec les disparitions mystérieuses.
Parfait.
Ça a fait l'objet de beaucoup de controverses cette semaine. On parle de ça.
Excellent. Bougez pas, vous êtes dans les Radio X Files sur les ondes de choix 98 heures Radio X.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Le show du matin.
Weekend.
C'est aphrodisiaque pour moi.
Avec Carbo.
Ça n'a pas de bon sens.
Samedi et dimanche, 6h.
Radio X.
Présenté par Silencieux Proto. Votre voiture fait du bruit? Silencieux Proto évalue votre véhicule sans frais, répare et fabrique vos systèmes d'échappement sans rendez-vous. Silencieux Proto à Québec et Lévis.
La vente étiquette rouge est de retour. Profitez du meilleur des deux mondes avec la Prius hybride branchable. Roulez jusqu'à 962 km avec une charge complète et un plein d'essence. Et profitez d'une autonomie électrique améliorée de 50 %. Ajoutez à ça une conduite dynamique propulsée par 220 chevaux. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 8 000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente des tickets rouges, visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Si vous entendez ce message, vous avez de la chance parce que c'est votre dernière chance pour la vente du million Tanguay. Et vous avez une chance de gagner 1 000 000 par tranche de 100 $ d'achat. Mais ça se termine le 3 mai. C'est donc votre dernière chance d'avoir de la chance avec la vente du million Tanguay. C'est-tu clair?
Certaines conditions s'appliquent.
Quand on a envie d'une bonne bouffe à partager, la pizza, c'est toujours une bonne idée. Et ça tombe bien parce que Pizza Hut est maintenant ouvert partout dans la ville de Québec avec des offres exceptionnelles pour nourrir votre fun. Commandez sur pizzahut.ca dès aujourd'hui.
Quand j'avais des douleurs aux genoux, j'en parlais à tout le monde. À mes collègues.
Bonjour tout le monde, j'ai mal aux genoux.
À mon chien.
J'ai mal aux genoux.
Mais le mieux, c'est d'en parler à son médecin et de demander Cingal, le seul traitement qui, en une seule injection, agit rapidement et soulage à long terme les douleurs causées par l'arthrose du genou. Allez sur Cingal.ca, Cingal.ca, afin de localiser une clinique. Cingal. Pour ne plus parler de vos douleurs aux genoux, parlez-en à votre médecin. Cingal peut ne pas convenir à tout le monde. Si vous avez des questions relativement à ce produit, consultez votre médecin.
Lasagne surgelée, puissance moyenne, pendant 15 minutes. On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Prêt à jouer?
Vivez le plaisir sur playojo.net avec toutes vos machines à sous et jeux de casino préférés comme Jungle Beast et Sugar Rush. En plus d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Hey, j'ai gagné! Wouhou!
Sentir le plaisir, Play-O-Jo.
Chérie, oublie la lasagne, on doit fêter ça!
Disponible pour tous les joueurs des 18 ans et plus. Ceci n'est pas un site de jeu d'argent. Veuillez jouer de façon responsable.
Depuis plusieurs années, la lunetterie Bellan et Marie-France Pro opticienne vous offrent toujours le meilleur prix avec forfait verre et monture. Simple vision à 99 $ et progressif à 249 $. C'est juste incroyable! La lunetterie Bellan, service qualité bas prix.
Pour rouler sans passer à la pompe, faut rouler jusque chez JD Chevrolet à Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous ferez une visite payante en vous procurant le Chevrolet Blazer EV 100% électrique à partir de seulement 41 658 $. Silencieux, puissant, économique, y a rien qui brûle, sauf votre envie de partir sur la route. Et chez JD Chevrolet, on coupe dans le superflu. Vous investissez dans le véhicule, pas dans la décoration. Chez JD Chevrolet, c'est toujours une visite payante à Sainte-Anne-de-Beaupré.
On va se le dire, gérer vos comptes payables à la main en 2026, c'est une perte de temps monumentale. L'automatisation des payables avec XMA Solutions, c'est zéro papier. Plus de saisie de données dans votre système comptable et des factures approuvées en un clic. Construction, gestion immobilière, manufacturier ou distribution, on automatise ce qui vous ralentit. Visitez XMA.ca pour transformer vos processus dès aujourd'hui. Avec XMA Solutions, on ajuste des solutions.
Le spécialiste de la toiture, c'est Nanook. Pour un temps limité, profitez d'une super promotion. Obtenez un rabais éclair allant de 500 à 1 500 $ en demandant une soumission pour toit plat ou revêtement extérieur pendant la promotion Renault Rabais chez Nanook. La soumission gratuite doit être acceptée dans un délai de 10 jours. Chez Nanook, faites affaire avec des gens de confiance. Appelez-nous au 581-985-6949 ou visitez nanuq.ca. Certaines conditions s'appliquent.
La soudure chez Can-Am, c'est essentiel. FCAW ou GMAW, ton talent donne forme à des structures d'envergure. Ici, tu travailles avec des outils adaptés, dans un environnement sécuritaire, stimulant et surtout avec une équipe solide et fière. Horaires de nuit du lundi au jeudi, primes de nuit, vêtements fournis et cartes CWB possibles sur place. Can-Am recrute des soudeurs. Fais partie de l'alliage. www.canam.com.
Pinata! C'est le goût de la fête mise en bouteille. Sucrée, surette et délicieuse. C'est une explosion de saveurs qui fera lever le party. C'est assuré. Que tu préfères l'intégrer dans tes cocktails ou la consommer sur glace, on te promet que tous tes invités vont l'adorer. Nos quatre saveurs inspirées par les bonbons sont pêche surette, cerise atomique, pamplemousse surette et banane guimauve. Tu peux les trouver à la SAQ et à la distillerie Stadacone. En plus, plein de recettes de cocktails sont disponibles au stadacone.com. Santé!
Si vous avez besoin d'aide avec vos dettes, contactez Raymond Chabot, syndic autorisé en insolvabilité, pour une consultation gratuite. Rendez-vous sur RaymondChabot.com.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files, émission du vendredi soir avec Christian Page. Et bon, on va continuer avec les trucs disparus, les disparitions mystérieuses, Christian. Tu disais juste avant d'aller à la pause que ça a retenu l'attention beaucoup cette semaine.
Oui, et même hier, à l'émission du retour avec Danny, j'en ai parlé parce que, bon, c'est un truc qui fait beaucoup jaser dans l'actualité. Et nous-mêmes, à l'émission Radio X-Files, on en avait parlé il y a 2 ou 3 semaines. Lorsqu'on avait parlé, c'était l'émission, je pense, sur les ovnis, on avait parlé de la disparition de William Neal McAslan, qui est un retraité, un général de l'armée américaine et qui a disparu dans des circonstances un peu mystérieuses. Et là, ben, sa disparition a été montée un peu en épingle par des amateurs d'OVNI en disant, ben voilà, McAslan avait apparemment un lien avec l'histoire des OVNI et sa disparition mystérieuse vient comme ajouter à l'énigme. Hein. Est-ce qu'on aurait comme fait disparaître McAslan parce que il détenait de l'information qui aurait été... sensible et qui aurait pu révéler aux médias ce que sa femme est venue quand même un peu tempérer en disant c'est pas vrai, le seul lien que McAslan avait avec les ovnis, c'est il y a quelques années, il avait entretenu une espèce de communication avec Tom DeLonge. Tom DeLonge, c'était le chanteur du groupe, et je pense qu'il l'est encore, chanteur du groupe Blink-182. Et Tom DeLonge s'intéresse beaucoup à la question des ovnis et il y a quelques années, peut-être maintenant presque 10 ans, là, mais il a créé une espèce d'organisation pour faire travailler à la divulgation d'informations sur les ovnis et développer une espèce de commerce autour de ça. C'est assez nébuleux un peu tout ce que veut faire Tom DeLonge, mais néanmoins, à ce moment-là, Tom DeLonge, par un concours de circonstances, avait rencontré William Neal McAslan et... il y avait eu un échange entre les deux et ça s'était un peu limité au fait que McAslan avait expliqué à Tom DeLonge un peu le béaba de comment obtenir de l'information auprès de l'armée. Donc, pas précisément sur les ovnis, mais tu sais, si toi, par exemple, tu te dis « OK, moi, j'aimerais obtenir des rapports sur le département de la Défense. Comment est-ce que je fais ça? À qui je m'adresse? Comment je monte le truc? » Et puis McAslan, qui avait une longue carrière militaire, ben, avait un peu aiguillé Tom DeLonge là-dessus. Ensuite, son épouse était claire, il n'a pas pris part à une recherche sur les ovnis, là. Il a simplement conseillé un peu Tom DeLonge. L'autre lien qu'on trouve avec McAslan et les ovnis, c'est que McAslan a une grande partie de sa carrière militaire, il l'a fait à la base de Wright-Patterson à Dayton dans l'Ohio. Or, la base de Wright-Patterson a été, entre 1947 et 1969, elle a été le siège d'un bureau qui s'appelait l'ATIC, les Air Technical Intelligence Center, et eux géraient l'enquête sur les ovnis. En 1947, le gouvernement américain a mis de l'avant un projet d'enquête sur les ovnis, les soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque, et ce projet-là s'appelait le projet SIGN. Il a été remplacé en 1949 par un autre projet. En fait, c'est un peu dans la suite. C'est devenu le projet Grudge. Et en 1952, le projet Grudge, il y a eu une période un peu latente en 1951. Et quand il a été réactivé, il a changé de nom pour le nom de projet Blue Book. Et il est demeuré sous l'égide projet Blue Book jusqu'en 1969. Ceux qui géraient cette enquête sur les ovnis, c'était l'Air Technical Intelligence Center, qui se trouvait, hein, dont le siège social était à la base de Wright-Patterson à Dayton, dans l'Ohio. Donc, la base de Wright-Patterson, elle a un lien avec les ovnis. Et la base de Wright-Patterson, dans le folklore des ovnis, c'est également une base où on aurait également amené des débris de l'objet de Roswell en 1947. Mais il n'y a pas de lien direct avec McAslan. McAslan n'était pas un membre du projet Blue Book. Rien ne permet de croire qu'il a été impliqué dans quelques projets d'enquête sur les ovnis. Son épouse, d'ailleurs, a été Susan Wilkerson sur les médias sociaux, a été claire à ce sujet-là. Son mari lui a jamais parlé d'ovnis. Elle est claire, il n'a jamais été impliqué dans quelques études sur les ovnis. Même s'il a dirigé un laboratoire de recherche à la base de Wright-Patterson, ça n'avait rien à voir avec les ovnis. Donc, il n'y a pas vraiment de liens. On peut essayer d'en faire des liens un peu cosmétiques en se disant la base de Wright-Patterson est associée au projet Blue Book, les ovnis, mais c'est un peu tiré par les cheveux tout ça. Ce que l'on sait par contre de la disparition de McAslan, c'est lorsqu'il est disparu le 27 février dernier, il a quitté sa maison en laissant son portefeuille, les clés de sa voiture, tout ça, c'est une disparition qui était volontaire. Là. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'éléments qui permettent de suggérer qu'il a été enlevé ou qu'il y a eu des gestes de violence ou des gestes criminels. Ce que l'on a appris également de la bouche de son épouse, c'est que McCaslin avait été diagnostiqué avec des troubles cognitifs. Hein. Il avait 68 ans et il commençait à perdre la mémoire et il avait eu un diagnostic. On n'était pas encore dans la démence, mais on était au tout début. Là. Donc, on sait que dans les mois à venir, ou sinon les années à venir, McCaslin aurait développé un Alzheimer ou une démence précoce. Et là, donc, à ce moment-là, son épouse a été claire, il avait de la difficulté à accepter ce diagnostic et le jour de sa disparition, il a laissé à la maison son portefeuille, les clés de sa voiture, tout ça, sauf qu'il a emporté avec lui son revolver de calibre 38. Donc, tout porte à croire. Puis c'est un type qui allait dans les montagnes. On était à Albuquerque, donc il y a plein de montagnes autour.
Oui.
Il aimait faire du trekking dans les montagnes, tout ça. Donc, on peut supposer que... C'est triste à dire, mais on peut supposer qu'il s'est suicidé. Mm-hmm. Son corps n'a pas encore été retrouvé, mais tout porte à croire qu'il s'est suicidé, que le lien avec les ovnis, ben, c'est un lien vraiment très ténu, tiré par les cheveux, mais monté en épingle par les amateurs de théorie du complot. Donc, et à partir de là... Là, des gens se sont dit, est-ce qu'on s'est mis à regarder, puis on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient été impliqués dans le domaine de la recherche, soit dans le domaine nucléaire, soit dans le domaine de l'astronomie, l'aérospatiale, ou même les ovnis. Donc, des gens qui étaient disparus au cours des dernières années. Et là, on se dit, on monte ça en épingle, est-ce que c'est mystérieux? Qu'est-il advenu de ces gens-là? Est-ce qu'il y a une espèce de pattern derrière ça, une espèce de théorie du complot? Et finalement, ça a rebondi à la Maison-Blanche, là, cette semaine, le président Trump a été questionné à ce sujet-là. On a également questionné Catherine Leavitt, là, qui est la porte-parole de la Maison-Blanche. On l'a également questionné à ce sujet-là. Est-ce que vous êtes au courant de ces disparitions mystérieuses? C'est un peu étrange. Je ne sais pas pourquoi des journalistes ont posé cette question-là. Je ne sais pas si c'est le même journaliste. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, ce qui est impliqué dans les théories du complot. Mais c'est un peu du grand n'importe quoi, cette histoire-là. Puis je t'explique pourquoi. Laissons la porte ouverte. C'est peu qu'il y ait un grand dessin mystérieux derrière ça. Mais ce qu'il faut faire attention ici, et ce qui n'est pas vraiment dit dans toute cette histoire-là, c'est qu'on nous cite 10 à 12 personnes qui est impliquée dans soit de la recherche nucléaire, l'astronomie, l'aérospatiale, et peut-être même les ovnis. Donc, des personnes qui auraient disparu au cours des 4 à 5 dernières années. C'est pas au cours des 3 dernières semaines, là. On parle de 4 à 5 ans. Des gens qui étaient âgés de 35 ans à 78 ans. Donc, plusieurs d'entre eux étaient déjà à la retraite depuis un petit bout de temps. Plusieurs également avaient des problèmes de santé. Donc, quand on met sur la liste des gens, puis j'en ai sorti quelques-uns ici, on met sur la liste une certaine Amy Eskridge. Elle avait 34 ans. Elle est décédée le 11 juin 2022. Donc, ça fait déjà 4 ans.
C'est vrai, quand même.
Et elle était la cofondatrice de l'Institut des sciences exotiques, qui touche le domaine de l'astronomie et de l'exobiologie, donc de la vie sur d'autres planètes. Elle avait créé ça. Elle était la cofondatrice à Huntsville, en Alabama, de cette espèce d'institut. Elle avait des problèmes médicaux. Elle est décédée de ces problèmes médicaux. Et personne n'en a fait d'un plat. Là. Je veux dire, elle était malade, elle avait un cancer. Elle est décédée à 34 ans. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui meurent. Tu sais.
Ça arrive,
Et là, voilà qu'on remet ça. On amène sa mort soudainement et son nom se retrouve sur cette liste de gens morts mystérieusement. Un point tel que sa famille, cette semaine, ont publié une espèce de démenti. Et la famille ont écrit, et là je le cite, ils ont écrit « Les scientifiques meurent aussi. Hein? » Oui, c'est une réalité, ça, tu sais. Et donc, ensuite, on nous dit, on nous cite des gens, par exemple, un type qui s'appelle Nuno Leluero, un professeur de 47 ans qui est associé au Massachusetts Institute of Technology. Il a été abattu chez lui le 15 décembre 2025, donc c'est assez récent. Il a été tiré, atteint par balle le 15 décembre, il est décédé le lendemain à l'hôpital. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que son tueur, un certain Claudio Manuel Neves Valente, est un type qui venait du Portugal, était un individu instable. Il a publié des vidéos où on voit que le type a des troubles mentaux et il La veille, il avait assassiné deux étudiants sur le campus de l'Université Brown, qui se trouve au Rhode Island. Donc, on n'a pas le pattern d'un individu qui... Tu comprends, c'est pas la théorie du complot où des agents mystérieux vont assassiner ce gars-là chez lui. Il a été assassiné, oui, mais il a été assassiné par un cinglé qui avait assassiné deux étudiants la veille. Là, et on a plein de trucs comme ça. Un homme de 78 ans, un retraité du laboratoire de Los Alamos depuis pratiquement 20 ans. Le type était retraité depuis 20 ans. Là. Si on avait voulu le faire disparaître, on l'aurait fait disparaître avant. Le type est retraité depuis 20 ans et il est disparu en mai 2025 et il avait des problèmes cognitifs. Il était un peu perdu, puis c'est un amateur de tricking, un peu comme McCaslan. Il est parti pour faire du tricking, puis il n'est pas revenu. On n'a pas retrouvé son corps, mais on est au Nouveau-Mexique, là aussi. Donc, bon, le type est disparu. Et puis, on en avait d'autres, des gens qui avaient des problèmes de santé mentaux, des problèmes financiers, des problèmes sentimentaux. Et certains se sont suicidés. Bon, et c'est un peu étrange parce que cette histoire-là, donc, comme je l'ai mentionné, elle rebondit à la Maison-Blanche, elle rebondit là, proche du Congrès. Là, on a dit, ben, on va s'en occuper, on va regarder ça de plus près. Est-ce qu'il y a un pattern derrière ça, si tu me permets l'expression anglaise, là? Est-ce qu'il y a un pattern ou est-ce que c'est simplement le hasard? Mais prenons un pas de recul. Là. On se dit quand même, attends une minute, là. On a 10 à 12 personnes qui sont mortes ou qui ont disparu dans des circonstances un peu nébuleuses au cours des 4 dernières années et qui étaient associées à la recherche nucléaire, l'astronomie, l'aérospatiale ou les ovnis. On ratisse large, là. Oui, c'est des centaines de milliers, tu sais, c'est des centaines de milliers de personnes, ça, là. Et là, on nous sort que 10 personnes là-dedans qui ont trouvé une mort un peu mystérieuse. Et on pourrait faire le même exercice avec les fans de Céline Dion. Ou, tu sais, tu comprends, je veux dire, si on regarde l'ensemble des fans de Céline Dion, bon, on va en trouver là-dedans qui ont, au cours des dernières années, ont été assassinés, qui ont disparu, qui sont morts du cancer. Ça arrive, tu sais, je veux dire. Mais j'ai l'impression que c'est un espèce de truc qu'on monte en épingle et, à mon avis, là, ça n'engage que moi, mais à mon avis, je pense que derrière ça, moi, je sens se profiler les amateurs d'OVNI qui aiment beaucoup monter en épingle des situations comme celle-là. Et c'est pas la première fois qu'ils le font. Quand on regarde dans la littérature sur les OVNI, ils sont vite sur le gun, hein, pour dire « Ah, tel individu est mort mystérieusement, et ça doit être lié à leur rôle dans l'univers des OVNI. » Parce qu'en même temps, si ces gens-là meurent ou disparaissent et qu'ils sont associés aux OVNI, ça vient, c'est une espèce de plus-value. Ça vient ajouter à l'idée que les ovnis, c'est sérieux à un point tel qu'on tue des gens. Tu comprends?
Ah oui,
ça vient ajouter à cet aspect sérieux-là. Et moi, je me rappelle, quand j'étais très embrigadé dans cet univers-là, il y avait 3 morts qui revenaient régulièrement et qu'on nous présentait comme étant une espèce de Saint Graal pour prouver que les ovnis c'était sérieux puis qu'on était prêt à tuer des gens. Et il y avait par exemple James Forrestal. James Forrestal, pour te le situer, c'était le premier secrétaire du département de la défense. Donc, quand le gouvernement américain a créé le ministère de la défense après la Deuxième Guerre mondiale, le premier secrétaire était James Forrestal. James Forrestal a été défenestré le 22 mai 1949. Et quand je dis défenestré, il a sauté par la fenêtre. Et là, évidemment, on nous dit, ah, James Forrestal, il était le secrétaire à la défense et quand je t'ai parlé tantôt du projet Blue Book, quand je t'ai dit qu'au départ, ce projet-là s'appelait projet SIGN, avant de devenir Grudge et Blue Book, bien, le projet SIGN, il a été mis en place en décembre 1947 et celui qui avait signé cette demande ou cette création, c'était James Forrestal. Fait que comme il a un lien, hein, il est l'individu qui a demandé la première enquête sur les ovnis, ben donc, 2 ans plus tard, quand il est défenestré à l'hôpital de Bethesda, ben on se dit, ça doit être à cause des ovnis. Mais non. Par son enquête, on découvre que James Forrestal, à partir de la fin de 1948, il a des troubles mentaux et il développe une forme de paranoïa incroyable, à un point tel que c'est sa famille et même le gouvernement qui va demander à ce que James Forrestal, parce que lui, on veut qu'il soit mis dans un hôpital pour qu'il soit traité, mais il veut pas. Hein. Il est convaincu qu'il y a des complots partout. Fait que finalement, sa famille va signer un acte, il est amené à l'hôpital et éventuellement, il va réussir à ouvrir la fenêtre et il va sauter en bas. T'sais. Il y a rien, là, mais strictement rien dans la mort de James Forrestal qui permet de croire que sa mort soit liée aux ovnis. Si ce n'est qu'en 1947, il a effectivement signé la première demande pour qu'il y ait une enquête sur les ovnis. Même chose avec un autre type, encore une fois, une autre mort mystérieuse montée en épingle, un certain James McDonald, qui s'est suicidé le 13 juin 1971. McDonald était un physicien et il s'est intéressé beaucoup dans les années 60 à la question des ovnis. Et en 1971, il va se suicider par balle, il se tire une balle dans la tête. Et là, bien évidemment, les amateurs d'ovnis utilisent cette mort-là, encore une fois, comme une plus-value pour dire, voilà, James Forrestal a dû être assassiné par des mystérieux hommes en noir, on ne sait pas trop. Mais non, quand on fouille, on découvre assez... Ouais, mais quand on fouille un peu, on découvre que James Forrestal, à partir de 1969, il avait des problèmes financiers et des problèmes conjugaux. Sa femme l'a quitté, ses enfants lui ont tourné le dos, et quelques semaines avant son suicide, en 1971, parce qu'il s'est suicidé en se tirant une balle, il avait déjà une tentative de suicide à son actif. Il s'était tiré une balle, puis il s'était raté. Donc, il avait été admis à l'hôpital et il était devenu aveugle. La balle avait amené des lésions au cortex cérébral qui contrôle la vision. Puis James Forrestal était pratiquement aveugle. Pas entièrement aveugle, mais presque aveugle. Il distinguait encore un peu de la lumière et des formes. Quand il est sorti de l'hôpital, handicapé comme il l'était devenu et toujours avec ce même état dépressif, ben, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il est allé chez lui, il est allé chercher son gun, il est allé dans le désert, puis cette fois-là, il s'est tiré une deuxième fois, mais ce coup-là, il s'est pas manqué. Donc, on a toutes sortes de contextes. On a un contexte familial, économique, qui montre que James Forrestal est un homme sur une trajectoire de suicide. Sa mort n'a rien à voir avec les ovnis. Là. Il y a strictement rien. Il s'intéressait aux ovnis, bien sûr, comme d'autres vont s'intéresser aux timbres, ou d'autres vont s'intéresser aux modèles réduits. James Forrestal s'intéressait aux ovnis. C'est un peu exagéré d'essayer d'associer sa mort à son intérêt pour les ovnis. Même chose avec un type qui s'appelle Morris Jessop, décédé le 20 avril 1959. Jessop, il est bien connu parce que il a été un acteur dans, je ne sais pas si ce nom-là va te dire quelque chose, l'opération ou le projet Philadelphie.
Non, ça ne me dit rien.
Il y a une légende dans la culture américaine et dans le milieu du paranormal qui voudrait que quelque part, entre la fin de 1943 ou 1942, on aurait utilisé, on parle surtout de l'automne 1943, l'armée américaine aurait rendu invisible un bateau, un destroyer, en fait c'est un contre-torpilleur, qui se trouvait dans le port de Philadelphie, un bateau qui était le DE-173 Eldridge. Le gouvernement américain aurait développé un programme pour rendre invisible ce bateau-là. Et le bateau aurait non seulement, on l'aurait pas seulement rendu invisible, pendant un court laps de temps, il aurait été téléporté du port de Philadelphie jusqu'au port de Norfolk en Virginie avant de revenir à Philadelphie. Donc, une téléportation à travers l'espace. Et bon, je n'entrerai pas dans le détail, c'est une histoire un peu fantaisiste, tout ça, mais bon, Morris Jessop est un peu impliqué là-dedans, puis il a été impliqué par la bande, parce qu'il avait publié un ouvrage sur les ovnis, The Case for UFOs, et c'est un des lecteurs de son livre qui lui a écrit des lettres, un certain Carl Allen, qui disait qu'il avait vu cette expérience-là, qu'il avait été un témoin oculaire de l'expérience. Et Morris Jessop a un peu raconté cette histoire-là autour de lui, puis l'affaire a fait un peu boule de neige. Et puis éventuellement, le 20 avril 1959, on est à Miami, on va retrouver son corps dans sa voiture, il a relié le pot d'échappement à la fenêtre de sa voiture, de l'habitacle, et il est mort par asphyxie. Là, évidemment, les amateurs d'ovnis vont monter ça en épingle en disant « Ah, Morris Jessop, le type qui a écrit The Case for UFOs, le type qui a été un peu par la bande impliqué dans l'opération, l'histoire de l'opération Philadelphie. » Ben voilà, qu'on le retrouve mort sur un parking, forcément, ça doit être lié. Pas du tout. Quand on regarde la trajectoire, encore une fois, familiale, économique de Jessop, on voit que c'est un type qui avait plein de problèmes familiaux. Là aussi, il y avait un divorce dans l'air. Il y avait d'ailleurs... un divorce qui avait été comme malsain, hein, parce que, bon, son épouse, la déchirure avait été grande, il se retrouvait pratiquement sans le sou, il se plaignait autour de lui que ses livres ne fonctionnaient pas bien, il avait écrit 2 livres sur les ovnis, et ses livres fonctionnaient pas bien, il disait qu'il ne réécrirait pas un nouveau livre, et puis éventuellement, il a perdu son emploi, ça allait mal pour Maurice Jessop. Et dans les semaines qui ont précédé son suicide, il a envoyé des lettres à des gens autour de lui en annonçant qu'il allait se suicider. Hein. Par exemple, un type qui s'appelle Ivan Sanderson, qui est bien connu dans le milieu du paranormal, qui était un ami de Jessop, reçoit à un moment donné une lettre et Jessop lui dit « La prochaine fois que tu voudras communiquer avec moi, tu devras le faire depuis l'au-delà. » Donc, des trucs qui étaient comme ça, qui laissaient clairement sous-entendre que Jessop allait bientôt se suicider. Là. Visiblement, il entretenait des idées de suicide et éventuellement, le 20 avril 59, il est passé à l'acte. Et encore une fois, quand on regarde, rien, mais strictement rien ne permet de croire que Jessop s'est suicidé en lien avec ses activités liées au monde des ovnis, etc. Je veux bien que les gens croient ça, puis c'est bien, mais il y a des enquêtes policières qui ont été menées, des rapports, puis on peut spéculer, inventer n'importe quoi, mais il y a quand même des réalités qui sont terre à terre. Et dans le cas de la disparition de McAslan, là, récemment, qui s'est produite là, le 27 février dernier, ben, comme c'est un militaire, je vois, moi, quand j'ai lu ça, la disparition de McAslan, la première fois que j'ai vu ça, c'est sur des sites, justement, d'amateurs d'OVNI. Donc, c'est une énième mort d'un individu qui, un peu par la bande, s'était intéressé aux ovnis. Même dans ce cas-là, il s'est même pas intéressé aux ovnis. Il a conseillé Tom DeLonge sur le B.A.B.A. de comment obtenir de l'information auprès du département de la Défense. C'est à peu près tout. Et on trouve le moyen de monter ça en épingle. Et je pense que les journalistes qui, cette semaine, ont interrogé le président Trump et ont intéressé Mme Leavitt sur la question, ben, je pense que ces gens-là se sont fait un peu avoir avec cette histoire-là, sans prendre le temps de vérifier. Parce que quand on vérifie chacun des décès, parce que c'est ce que moi j'appelle un peu le syndrome du triangle des Bermudes.
Oui.
Tu prends un grand nombre de gens qui meurent ou qui disparaissent, puis tu essaies de trouver une solution unique.
Ah, il y a un
unique.
Mystère. Ouais, oui,
mais
c'est
non,
ça.
Il y a un mystère. Non, il faut que tu prennes chacun des cas. C'est un peu comme si je te disais, toi, Nick, est-ce que tu peux me trouver une solution unique pour tous les accidents qui se passent sur l'autoroute 20? Tu vas me répondre non. Fait que là, je vais te dire, ben là, il y a un mystère. Le mystère de l'autoroute 20. Non, il n'y a pas de mystère. Si tu prends chacun des accidents qui se produisent sur l'autoroute 20, tu vas trouver des explications. Soit un problème mécanique, soit la vitesse, soit l'alcool au volant. Mais c'est sûr que globalement, tu ne peux pas trouver une explication unique à tout ça. Et les journalistes qui ont posé cette question-là, ben, s'ils avaient fait le même travail que j'ai fait cette semaine. J'étais allé consulter les rapports de police, j'étais allé voir dans les bureaux, dans les investigations qui avaient été menées, les articles de journaux qui avaient été publiés au moment de la disparition de ces individus ou de leur mort. On voit qu'il n'y a pas de mystère. Ce sont des morts qui sont normales, des gens qui se suicident, d'autres qui disparaissent, d'autres qui meurent du cancer. Puis évidemment, quand tu inclus dans ton outil de recherche, recherche nucléaire, astronomie, aérospatiale, OVNI, allô mon petit bonhomme, la liste est longue et surtout sur les 4 ou 5 dernières années, c'est normal qu'il y ait des gens qui ont des fins qui sont un petit peu nébuleuses,
oui.
Mais il y en a dans tous les domaines. Comme je l'ai mentionné, tu peux faire exactement le même exercice avec les collectionneurs de timbres, les philatélistes, ou encore les gens qui s'intéressent au modèle réduit ou qui écoutent Céline Dion. C'est de la statistique. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est de la statistique.
Ah oui, puis c'est facile l'exemple avec le triangle des Bermudes est assez frappant parce que moi, je me rappelle de cette l'époque mystérieuse du triangle des Bermudes, les avions, les bateaux, les gens, c'était tout le monde disparaissait dans ce triangle-là.
Puis là, quand tu t'arrêtes à chacune des disparitions, tu t'aperçois que le bateau était en mauvais état.
Exact.
Que le pilote était pas... On nous a reçu des pilotes chevronnés, pas du tout. C'était des étudiants pilotes. C'est parce qu'on déforme la réalité pour rendre ça plus mystérieux que ça l'est en réalité.
Ah, ben parce que c'est fascinant, j'imagine. Et que ça pique la curiosité.
On aime ça se faire raconter des histoires.
Oui, absolument. Christian Page, encore une superbe édition des Radio X-Files. Il me reste à te souhaiter, et à toi et aux auditeurs, un excellent week-end. Et on va se retrouver la semaine prochaine.
Tout à fait, la semaine prochaine.
Merci, Christian Page.
Salut.
Bye. C'était les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Au retour, c'est la exploratrice qui s'installe.
Radio X-Files.
avec Christian Page.
Radio X. Le retour de Radio X.
Jade Masson Wong, est-ce que Jake Paul est abonné à ton OnlyFans?
Non, en tout cas, je pense qu'il doit être bien trop dans le jeu pour avoir là-dessus.
Quand je disais, je parlais d'abonné, je sais pas pourquoi, mais Jordan, là, il a eu la face rouge un peu. C'est ça. Mais, mais c'est peut-être Mélanie aussi qui est abonnée, on sait pas.
Un retour de Radio X.
Lundi au vendredi, 15h.
Radio X. Présenté par Honda Donnacona et par le nouveau Ford Donnacona. On dépasse vos attentes avec 18 000 de rabais sur le Honda Prologue 100% électrique et avec des F-150 et des Broncos à prix d'amis. Ouvert le samedi.
Jusqu'à dimanche, c'est le retour de la très attendue vente Camion Nutriance chez Zino. 50% de rabais sur le deuxième sac de valeur égale ou moindre. Cadeau aux 100 premiers clients. Plusieurs autres spéciaux en magasin. Faites vos provisions dans toutes les succursales de Zino.
Nouveauté, les vendredis à l'atelier. Deux étages, deux ambiances. À l'étage, DJ set, l'ambiance signature du nightlife de l'atelier. Celle qu'on connaît déjà et qu'on adore. Au rez-de-chaussée, Ben Live Rock, les plus gros hits des années 80, 90, 2000. Les hits que tu connais par cœur. Une piste de danse qui te garde jusqu'à la dernière chanson. Ajoute à ça un menu cocktail nostalgique. Tu montes, tu descends, tu changes d'ambiance quand tu veux. Viens pour les souvenirs, reste pour l'ambiance. Les vendredis dès 22h, bistrolatelier.com.
Pour un véhicule d'occasion certifié Subaru, inutile de chercher ailleurs. Lévis Subaru est la référence. Venez choisir le vôtre et profitez d'un taux d'intérêt à partir de 3,99%. LévisSubaru.com.
Cette semaine chez Maxi, clairement, on est tombé sa tête. Les raisins verts à 1,99 la livre, 4,49 le kilo. Le poulet entier à 1,99 la livre, 4,49 le kilo.